Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Les bourreaux et victimes en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas. »
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Schnoz, né le 26 décembre 1947 à Orange, est un écrivain et romancier français. Lauréat, entre autres récompenses, du prix Médicis 1983 pour Cherokee et du prix Goncourt 1999 pour Je m'en vais. Ses fictions mêlent les références et puisent à l'imaginaire cinématographique. Elles multiplient les temps morts, les lieux, les rencontres, les assemblages improbables, des personnages incongrus quand ils ne sont pas purement chimériques. Il n'hésite pas à dire lui-même qu'il n'est ni un historien, ni un biographe, quand on lui demande pourquoi il utilise la mention « roman » lorsqu'il retrace une vie. Il répond qu'il écrit de la fiction. Il garde ainsi une certaine liberté d'écriture.
S'emparant de la figure bien réelle de l'ingénieur Nikola Tesla, 1856-1943, Jean Echenoz s'octroie d'emblée la liberté d'attribuer aux conditions mouvementées de sa naissance deux conséquences. Une passion pour l'électricité, il mettra effectivement au point le courant alternatif et un caractère ombrageux. Ainsi se présente donc Gregor, l'alter ego fictif de Tesla, dont Des éclairs raconte l'existence romanesque, laquelle a essentiellement pour cadre les États-Unis, où Gregor émigre alors qu'il a une trentaine d'années. Le cours de sa vie, embrassant dès lors un demi-siècle de progrès scientifique incessant.
En voici quelques extraits lus par Gabriel et Monique, assistés de Vincent à la technique et à la musique. Lecture de la première partie. De la naissance de Gregor à ses premiers succès.
Chacun préfère savoir quand il est né, tant que c'est possible. On aime mieux être au courant de l'instant chiffré où ça démarre, où les affaires commencent avec l'air, la lumière, la perspective, les nuits et les déboires, les plaisirs et les jours.
Cela permet d'avoir un premier repère, une inscription, un numéro utile pour vos anniversaires.
Or, ce moment exact, Gregor ne le connaîtra jamais, qui est né entre 23h et 1h du matin.
Minuit pile, ou peu avant, peu après, on ne sera pas en mesure de le lui dire.
De sorte qu'il ignorera toute sa vie quel jour, veille ou lendemain, il aura le droit de fêter son anniversaire.
D'abord, quelques minutes avant qu'il s'extrait de sa mère, et comme tout le monde s'affaire dans la grande maison, cris de maître, entrechoc de valet, bousculade de servante, dispute entre sage-femme et gémissement de la parturiente. Un orage fort violent s'est levé.
Précipitation granuleuse et très dense provoquant un fracas étal, feutré, chuchoté, impérieux comme s'il voulait imposer le silence, distordu par des mouvements d'air cisaillants.
Ensuite, et surtout, un vent perforant de force majeure tente de renverser cette maison.
Il n'y parvient pas, mais forçant les fenêtres écarquillées dont les vitrages explosent et les boiseries se mettent à battre, leurs rideaux envolés au plafond ou aspirés vers l'extérieur, il s'empare des lieux pour en détruire le contenu et permettre à la pluie de l'inonder.
Ce vent fait falser toutes les choses, bascule les meubles en soulevant les tapis, brise et dissémine les bibelots sur les cheminées, fait tournoyer au mur les crucifixes, les applique, les cadres qui voient s'inverser leur paysage et culbuter leurs portraits en pied.
Convertissant en balançoires les lustres sur lesquels s'éteignent aussitôt les bougies, il souffle également toutes les lampes.
La naissance de Grégoire se déroule ainsi dans cette obscurité bruyante, jusqu'à ce qu'un éclair gigantesque, épais et ramifié, d'orves colonnes d'air brûlées en forme d'arbre, de racines de cet arbre ou de serres de rapaces, illumine son apparition. Puis le tonnerre couvre son premier cri pendant que la foudre incendie la forêt alentour.
Tout s'y met à ce point que dans l'affolement général, on ne profite pas de la vive lueur tétanisée de l'éclair, de son plein jour instantané, pour consulter l'heure exacte.
Même si de toute façon, nourrissant de vieux différends, les pendules ne sont plus d'accord entre elles depuis longtemps.
Naissance hors du temps donc et hors de la lumière, car on ne s'éclaire qu'ainsi à cette époque, à la cire et à l'huile. On ne connaît pas encore le courant électrique.
Celui-ci, tel qu'aujourd'hui nous en possédons l'usage, tarde encore à s'imposer dans les mœurs. Il ne serait pas trop tôt qu'on s'en occupe.
Comme s'il s'agissait de régler cette autre affaire personnelle, c'est Grégoire qui va s'en charger. C'est à lui qu'il reviendra de le mettre au point.
De telles venues au monde risquant de vous rendre un peu nerveux, il se fait tôt remarquer par des caprices, des colères, des mutismes, des fugues et des initiatives intempestives. Destruction, bris d'objets, sabotage et autres dégâts.
Mais si cette turbulence de caractère laisse d'abord redouter qu'elle s'assemble en folie regrettable, force est assez proche de constater que son intelligence se développe à une allure encore plus vive que sa morphologie.
Grégoire manifeste le don de se représenter intérieurement les choses comme si elles existaient avant leur existence.
Ce qu'il y imagine étant immédiatement considéré comme vrai, le seul risque auquel il s'expose et peut-être s'exposera toujours est de confondre le réel avec ce qu'il projette.
Et comme il n'a pas de temps à perdre, les dispositifs qu'il envisage ne donnent pas dans l'accessoire, ni dans le trivial, ni dans le détail.
Grégoire ne sera pas du genre à perfectionner une serrure, améliorer un ouvre-boîte ou bricoler un allume-gaz.
Quand les idées lui viennent, cela se manifeste tout de suite de haut, de très haut, dans l'immensité cosmique et l'intérêt universel.
On le voit, ce ne sont pas des projets étriqués, car il ne convient à Grégoire que d'affronter de vastes dimensions.
Très tôt, parmi celles-ci, lui vient la certitude qu'il ferait bien, par exemple, un petit quelque chose avec la force marémotrice, les mouvements tectoniques ou le rayonnement solaire, des éléments comme ça.
Ou pourquoi pas, histoire de commencer à se faire la main, avec les chutes du Niagara, dont il a vu des gravures dans des livres et qui lui semblent assez à son échelle.
Oui, le Niagara.
Le Niagara, ça serait bien.
En attendant, ses diplômes chiffonnés dans ses poches, Grégoire part travailler à l'ouest, dans quelques grandes cités d'Europe occidentale.
Puis, pour s'occuper entre les heures de bureau, il construit sa première machine sérieuse.
Il s'agit d'un moteur à induction et à courants alternatifs de type nouveau qu'il présente avec son arrogance habituelle à ses collègues et devant lesquels ceux-ci allongent d'abord longuement le nez.
Puis, toute jalousie bue, et devant bien admettre que cet appareil pourrait tout changer, les collègues prennent sur eux, surmontent leur agacement et lui suggèrent de ne pas s'arrêter là.
Peut-être conviendrait-il de partir plus à l'ouest encore, où un nouvel humus plus riche et bien mieux engraissé devrait permettre à ses idées de s'épanouir à leur mesure.
On peut supposer que ces conseils ne sont pas entièrement désintéressés.
Car, non content d'être antipathique, il commence à devenir un peu encombrant.
Âgé de 28 ans, haut d'à présent 2 mètres, Gregor prend donc un bateau pour les États-Unis d'Amérique.
Il débarque sur un quai de New York, muni de son passeport et de son chapeau moulon. D'une mallette contenant peu d'effets, d'une autre contenant peu d'outils, de 20 dollars pliés dans une poche et serrés dans une autre poche, d'une lettre de recommandation pour Thomas Edison.
Edison est un inventeur riche et puissant, patron de la société General Electric.
Ayant d'abord conçu, après maintes autres choses, l'ampoule à incandescence, Thomas Edison a mis au point un système de distribution pour alimenter ses ampoules, avant d'inaugurer, 2 ans plus tard, la première centrale électrique au monde.
Tout cela ne demande qu'à s'agrandir encore, mais exige des mises de fonds et des investissements.
Or, les financiers n'ont pas l'air de distinguer encore très bien tous les avantages de cette électricité.
Sauf le plus riche d'entre eux, un nommé John Pierpont Morgan.
Redoutable, redouté pour sa puissance et son sale caractère, John Pierpont Morgan l'est aussi pour sa clairvoyance.
Il a tout de suite compris que depuis l'invention de la vis par Archimède, on n'a rien trouvé mieux que cette énergie dans toute l'histoire des sciences.
Gregor est assez intimidé en arrivant chez Edison.
Quand il se présente chez lui, Edison est d'une humeur de chien.
Depuis quelques jours, les incidents se multiplient dans ses installations fondées sur le courant continu au siège de diverses entreprises ou chez des particuliers.
Edison, avare autant que déplaisant, n'a plus de personnel sous la main quand Gregor lui tend timidement sa lettre qui fait état de ses qualités d'électricien.
À tout hasard et sans espoir, sans même un regard sur le jeune homme, Edison, ayant parcouru ce papier, l'envoie faire le point de ce qui se passe à bord de l'Oregon.
Gregor a d'abord un peu de mal à retrouver la direction du port.
Puis le quai où se trouve amarré le paquebot, survolé de mouettes qui attirent son œil. S'étant toujours intéressé à ceux qui volent, parmi quoi, plutôt, va savoir pourquoi, spécialement tout ce qui est pigeon,
colombe,
tourterelle,
et compagnie.
Mais bon, les goélands non plus ne manquent pas d'intérêt.
S'attaquant au dynamo, il les répare dans la nuit.
Rentré le lendemain matin au bureau d'Edison, celui-ci l'engage sans un mot comme assistant, moyennant un salaire de groom.
Assistant, du point de vue d'Edison, signifie homme à tout faire, homme de peine plutôt que de confiance. Et le rôle de Gregor va surtout consister à obéir aux injonctions les plus diverses.
Tâches domestiques, voire ménagères, sans droit particulier à la parole, assurant cependant une permanence aux incidents de plus en plus fréquents qui se manifestent dans les installations fournies par la General Electric.
La persistance de ces pannes, dans l'esprit de Gregor, finit par insinuer, puis faire croître un doute sur le principe même des équipements d'Edison, à savoir le courant continu.
Gregor, pendant ses études, avait bien repéré que ça n'allait pas en observant une machine du même type que lui avait présenté son professeur de physique.
Comme elle produisait beaucoup trop d'étincelles, Gregor avait timidement proposé de remplacer le courant continu par un courant alternatif.
L'enseignant avait haussé les épaules en faisant valoir qu'une telle idée relevait du mouvement perpétuel, par conséquent de l'impossible, et Gregor n'avait pas insisté.
Maintenant qu'il travaille à la General Electric, Gregor s'est ouvert une ou deux fois de cette hypothèse de courant alternatif, mais Edison, rugissant à cette évocation comme à celle de l'Antéchrist, Gregor n'a toujours pas insisté.
N'empêche qu'un doute est né dans l'esprit suspicieux du Edison.
Qu'un élément si doué, si assidu, puisse évoquer une autre solution que le courant continu, fait éclore, puis se développer sa méfiance.
Une fois que Gregor a décrit à Edison de quelle manière il pourrait peut-être améliorer le rendement de son générateur...
« Bon, lui dit le patron, allez-y »
$50 000 pour vous si vous y parvenez.
Gregor s'y est mis, ce qui lui a pris 6 mois, au bout desquels le générateur s'est retrouvé, en effet, en pleine forme.
Gregor s'empresse d'aller en rendre compte à son employeur.
« Bon !» s'exclame Edison, vautré dans son fauteuil. « Bien, très bien !»«
C'est vrai ?» s'inquiète Gregor. « Vous êtes content ?»«
Ravi !» déclare Edison, enchanté.
Par conséquent, s'aventure Gregor sans pouvoir achever sa phrase.
« Par conséquent, quoi ?» l'interrompt en effet Edison, dont le visage se ferme.
« Ma foi, s'enhardit Gregor, il m'avait semblé comprendre que $50 000... »
Enfin, Gregor, le coupe Edison en décroisant ses pieds posés sur son bureau. « Vous ne comprenez pas l'humour américain ou quoi ?»
Cette fois, Gregor s'est levé, dirigé vers le porte-manteau d'où il a décroché son chapeau melon. Puis vers la porte qu'il a prise sans un mot, ni la refermée derrière lui. Puis vers la comptabilité pour y encaisser son solde. Puis vers la rue en se demandant ce qu'il va faire après ce mauvais coup.
Eh bien, c'est fort simple. Il va tenter de développer seul sa petite idée de courant alternatif.
Pendant les 3 années passées chez Edison, il s'est assez tôt fait remarquer par sa promptitude efficace, par l'originalité de ses solutions, et en peu de temps, sa réputation d'ingénieur s'est établie au-delà du seul sein de la General Electric.
Gregor se rend donc au siège d'un groupe de financiers auquel il expose ses conceptions.
Eh bien, les choses ont fort aimablement marché.
S'étant réunis après son départ, les hommes d'affaires conviennent qu'il y a sans doute là quelque chose.
Le faisant revenir le surlendemain, il se déclare assez intéressé pour lui proposer de fonder une société à son nom.
La Gregor General Electric Light Company, au cœur de laquelle il pourra développer ses recherches.
Certes, la finançant, ils seront majoritaires au sein de celle-ci. Vous savez bien ce que c'est.
Mais il convient que Gregor injecte également des fonds pour justifier le nom de l'entreprise et son nouveau statut.
Gregor admet que c'est bien normal et se défait d'un seul coup de tout l'argent mis de côté pendant ses 3 années de travail à la General Electric.
Tout, c'est-à-dire peu, mais c'est quand même tout.
Et comme tout ne suffit pas, le voilà qui emprunte audacieusement.
Eh bien, c'est ensuite allé fort vite aussi.
Le temps d'inventer une lampe à arc immédiatement brevetée, mise en service et aussitôt bénéficiaire.
Le temps pour ses partenaires d'un bon petit retour sur investissement et la survenue d'honnêtes marges.
Gregor se retrouve promptement licencié de sa propre entreprise que récupèrent ses associés.
Heureux de sabler ce nouveau champagne.
Et quant à lui... parfaitement lessivé.
C'est ainsi qu'on se retrouve à la rue. Terrassier, manœuvre, portefeuille, couvert de dettes dans l'industrie du bâtiment pendant 4 ans.
Nous sommes assis sur des sacs de ciment, sur des caisses, près d'un feu de planches englué de plâtre, au milieu du chantier, dans une large artère de Brooklyn.
Une claire-voie grillagée sépare le chantier de cette avenue boueuse et tumultueuse, où ces nouveaux tramways à motrice électrique qui ne cessent de tomber en panne quand ils ne se renversent pas, terrorisant leurs passagers comme les piétons et dont tout le monde se plaint.
« Ça ne marchera jamais, ces tramways !» commente le contremaître assis près de Gregor. « Ça n'est pas adapté aux rues !»«
Si, dit Gregor, forcément, ils finiront par s'adapter un jour ou l'autre !»
Tout dépend du système d'énergie. C'est ça qui ne va pas. C'est le courant continu.
Vous en savez quoi, vous, s'inquiète le contremaître.
C'est que je suis ingénieur, n'est-ce pas, répond Gregor avec raideur. C'est ça mon vrai métier.
L'électricité.
Et il entreprend d'expliquer en brèves phrases claires, étonnamment intelligibles, les inconvénients du courant continu. Alors qu'un système alternatif permettrait d'utiliser des transformateurs susceptibles d'élever et d'abaisser la tension.
Grâce à ces transformateurs, on pourrait envoyer des milliers de volts à des centaines de kilomètres.
L'autre le regarde bizarrement d'abord,
partagé entre le curieux sentiment de comprendre aussitôt une langue étrangère et le soupçon que son interlocuteur divague.
Mais à mesure que Grégor développe son propos, le regard du contremaître se fait de moins en moins inquiet.
C'est pour ça que ça serait mieux, le courant alternatif.
Ça coûterait bien moins cher et ça marcherait bien mieux.
Pareil avec les tramways.
Mais je vous embête avec ces histoires.
Nullement, dit le contremaître, nullement.
Pourquoi, dit Grégor, ça vous intéresse?
Ce n'est pas ça, dit le contremaître. C'est que je connais peut-être quelqu'un, moi.
Un ami à moi.
L'ami du contremaître est surtout quelqu'un qui en connaît un autre, ou plutôt qui en est l'employé, car exerçant chez lui la profession de butler.
Et justement, l'employeur de ce butler occupe un poste important au sein de la Western Union Telegraph Company, société dirigée par l'entrepreneur John Westinghouse et incidemment rival de la General Electric d'Edison.
L'employeur de butler s'est également ouvert à lui de certains soucis de la Western Union, parmi lesquels, outre les distributions du gaz et du téléphone, figure celle de l'électricité.
Préoccupation majeure de George Westinghouse.
Et à ce propos, le contremaître se souvient que les deux mots prononcés par Grégor, courant alternatif, sont précisément passés dans la conversation.
Si vous voulez, dit le contremaître, je peux en parler à cet ami.
Grégor, ne s'opposant pas à telle initiative, l'information met quelques jours à remonter via le butler vers son employeur, puis va comprendre comment, jusqu'à George Westinghouse soi-même.
Qui laisse entendre, ma foi, qu'il aimerait en savoir un peu plus.
Au fond de son petit meublé minable, Grégor, prévenu, se trouve embarrassé.
Il descend acheter des manchettes et un faux col neuf avant de cirer ses chaussures, puis de brosser longuement son seul costume ainsi que son chapeau melon.
Le siège de la Western Union.
Après un hall suivi de plusieurs autres halls kilométriques.
Lustres,
marbre,
tapis,
statues,
tableaux,
tentures,
ponctués d'huissiers déjà fort longs à traverser.
C'est en très lent travelling avant qu'apparaît enfin George Westinghouse en personne.
Homme à bajoux, haut et massif.
Tout en volume, dépourvu de transition entre tête et épaule.
Bardé de chaînes de montre et de moustaches de morse.
Économe de ses mots.
Regard bleu froid, plongeant, n'ayant pas de temps à perdre.
Il désigne à Grégor un fauteuil de sa grosse main soignée, lestée d'une chevalière en fonte.
Grégor expose arguments et calcule assez décisivement pour se voir embauché à l'essai au bout d'une demi-heure d'entretien au titre de consultant.
Westinghouse lui donnera les moyens de développer son système.
Laboratoire, deux assistants, matériaux nécessaires et salaire minimum. Exigence de résultats à court terme.
Grégor se met à l'ouvrage dès le lendemain matin et ne nous attardons pas à conçoit en peu de mois un moteur, un générateur et un transformateur à son idée.
Essais et vérifications, dépôt de brevets, aval hoché de Westinghouse, puis décision de construire ses machines un peu partout.
Il semble que ça marche. La vie paraît se mettre à s'arranger un peu.
Elle est plus douce, et certains soirs, en sortant du laboratoire, Grégor prend le temps de s'attarder un moment dans les squares.
Il s'achète un sachet de pop-corn pour lui et un autre de graines pour nourrir les pigeons.
Il s'y rend toujours seul, car il est toujours seul.
Et à la différence de ses semblables, il paraît bien plus attentif à la contemplation de ses volatiles qu'à celle des, par exemple, filles.
La vie va bientôt prendre un tour plus favorable encore quand Westinghouse propose à Grégor de signer un contrat avec la Western Union.
Il recevra 2,5 $ de redevance pour chaque cheval vapeur de puissance électrique vendu.
Ça n'a pas l'air énorme à première vue, mais c'est toujours ça.
C'est aussi qu'on va se mettre à vendre à présent, et sérieusement.
Après son inauguration commerciale, il va s'agir maintenant de distribuer le courant alternatif polyphasé à grande échelle pour en approvisionner toute l'Amérique du Nord.
On conçoit qu'il s'agit d'un très vaste projet.
D'une opération considérable.
D'un plan sans précédent.
d'une énorme entreprise.
Tous les journaux en parlent.
Edison lit les journaux.
Edison a décidé d'agir. Il convient d'alerter l'opinion.
S'efforcer de discréditer cette nouvelle technique qui risque de le priver d'un marché florissant.
Il vient de mettre aussi au point un plan susceptible de frapper les esprits.
Si les voisins de la Générale électrique s'étonnent, s'inquiétant de ce que leurs animaux familiers s'absentent exagérément, c'est qu'un trafic inédit vient de se créer dans le secteur.
Les bêtes se retrouvent sanglées sur une paillasse en pleine rue, devant la foule passante et présentées par un démonstrateur pour y être soumises après un petit discours à une bonne décharge électrique de courant alternatif.
Vive impression chez les badauds.
Dès lors, une fois démontrés les affreux dangers de cette technologie, on ne peut que la dénoncer.
Condamner ses effets indésirables.
Exhorter la population à en refuser l'introduction chez soi.
On électrocute ainsi en public nombre de moutons, de veaux, de bœufs, de chevaux.
Bref, on exécute des bestiaux de plus en plus volumineux.
Pendant qu'Edison s'évertue, Grégoire ne perd pas une minute non plus.
Sans se reposer sur son nouveau salaire, ni se laisser un peu de temps pour voir venir,
il entreprend donc immédiatement de développer ses lampes à arc avec divers projets concernant la lumière.
Non qu'il soit ni se sente contraint par qui que ce soit de produire. Trouver des idées nouvelles et inventer toujours.
C'est juste que c'est plus fort que lui, étant à cet égard et à ses yeux plus imaginatif que tout le monde.
Aussi, quand Westinghouse propose de mettre au service de Gregor des collaborateurs, ça ne se passe jamais bien.
Il apparaît très vite qu'il aime mieux travailler seul, en présence de personnes, son comptable excepté.
Il apparaît aussi d'ailleurs qu'il aime mieux être seul et vivre seul en général, et se considérer dans les miroirs plutôt que de regarder les autres.
Et se passer des femmes, bien qu'il leur plaise beaucoup.
Car il est fort beau, fort grand, brillant et beau parleur. Il n'a pas 40 ans. Il est à prendre.
Il semble jusqu'ici qu'il désire peu qu'elle se rapproche au-delà d'un seuil précis.
Mais ce fait tient aussi à certains points spéciaux de son caractère.
D'abord, son extrême préoccupation des microbes, bacilles et toute espèce de germes, qui le contraint à nettoyer sans cesse toute chose autour de lui, démesurément et sans jamais confier cette tâche à quiconque. Se lavant les mains avant, se lavant les mains après.
Puis sa manie de tout compter perpétuellement, qui est une absorbante besogne contraignante à l'égal d'une loi.
Il n'y a que l'argent que Grégoire ne compte pas, spécialement comme s'il était hors la loi.
Dans la foule infinie des chiffres qui occupent son esprit, chacun de ceux-ci inspire à Grégoire un sentiment spécial.
Un goût particulier.
Une couleur bien à lui. Rien n'égalant son affection majeure pour les nombres divisibles par 3.
Bon nombre, le sait, qui marche en toute occasion.
Tout ce qui se divise par 3, aux yeux de Grégoire, c'est mieux.
Rien n'est plus beau pour lui qu'un multiple de 3.
Les électrocutions d'animaux, les gens s'en lassent rapidement, tant la futilité de l'homme, etc. Ce que voyant, Edison et sa Générale électrique commencent à se demander si, tant qu'on y est, l'application du courant alternatif sur un être humain ne serait pas plus franche, explicite et spectaculaire.
Reste à mettre la main sur un volontaire.
Manque bien sûr les candidats qui ne se bousculent pas pour se dévouer spontanément.
On connaît le découragement. On envisage de laisser tomber le projet jusqu'à ce qu'on pense mettre enfin la main sur le sujet idéal.
Détenu à la prison de Sing Sing, ce premier client consiste en un certain William Kemmler qui vient de se laisser aller à massacrer sa compagne au moyen d'une hache.
Or, de telles pratiques ne sont pas bien vues. L'emprise de l'alcool n'exclut en rien.
Jugeant qu'il n'est pas civil d'ainsi hacher sa concubine, on l'a donc condamné à mort, verdict dont le dit Kemmler lui-même, en toute logique, convient.
Jusqu'ici, en de tels cas, on pend.
Edison s'arrange pour faire installer un dispositif adéquat dans le pénitencier.
La première tentative d'exécution échoue.
Après un choc électrique de 1000 volts, administré pendant 17 secondes, Kemmler est encore vivant.
Une fois le générateur remis en marche, on procède à un deuxième essai.
Jusqu'à ce que, certifié par un médecin légiste, son décès ne soit plus douteux.
Voilà qui est fait.
Après ce premier condamné calciné, les fâcheux effets du courant alternatif sur l'homme sont désormais indiscutables.
Thomas Edison n'est pas mécontent.
Comprenons ce bonheur et n'oublions jamais que les plus belles inventions ont souvent de bien belles histoires.
C'est par exemple ainsi que vient de naître la chaise électrique.
D'un contre-argument publicitaire. Westinghouse, ayant compris la supériorité du courant alternatif, puis entrepris d'en convaincre son monde, rêve à présent d'en approvisionner le continent américain.
Pour lui prêter main-forte et contrer la campagne à grand spectacle de la General Electric, Gregor se lance dans une série de conférences aux États-Unis, puis en Europe.
Il commence déjà par se constituer une garde-robe, immédiatement soucieux d'être l'homme le mieux habillé de la 5e avenue. Cependant, malgré cette élégance, il n'a jamais recours aux bijoux.
Son horreur de ses breloques est même telle que sa montre ne se pare jamais de nulle chaîne.
Sa cravate de nulle épingle.
Nul de ses doigts du moindre anneau.
Au cours de ses causeries, il profite de la tribune qui lui est ainsi donnée pour monter un petit spectacle.
Devant une salle d'abord plongée dans une obscurité totale, quoique striée çà et là de luisances furtives,
il apparaît d'abord d'un coup, dans un rond de lumière blanche et comme surgi de rien, dans sa redingote noire cintrée, long visage blême et haute silhouette encore grandie par un haut de forme.
Environné sur sa tribune d'objets extravagants,
d'appareils jamais vus,
bobines solénoïdales,
lampes à incandescence,
spirales diverses,
et surtout nombreux tubes en verre de toutes formes, emplis de gaz à basse pression.
S'agissant de prouver avant toute chose la sûreté du procédé alternatif,
il saisit de la main gauche un fil provenant d'une bobine où circule un courant à forte tension.
Puis de la droite s'empare d'un tube.
Et voici que le tube, à la stupéfaction de la salle, s'illumine aussitôt.
La preuve est ainsi faite que, traversant sa personne, l'électricité ne l'affecte en rien.
Par sa présence scénique, son art de la formule, de la surprise et du suspense, ses manipulations et tours de passe-passe à l'appui,
Gregor, avec ses conférences, connaît tout de suite un succès considérable.
Fait l'objet d'une couverture de presse inouïe.
D'un frénétique bouche à oreille, provoquant une affluence accrue chaque jour.
Il est bientôt l'unique sujet de conversation dans les dîners mondains.
À toute allure, on se met à se l'arracher.
Pleuvent subitement sur lui les honneurs et les décorations.
Les gouvernements étrangers recherchent ses services.
On l'appelle magicien, visionnaire, prophète, génie prodigue. On le désigne plus grand inventeur de tous les temps.
Il accepte, puis souvent décline les invitations chez les riches, les très riches et les extrêmement riches.
Gregor, bien qu'il n'en montre rien, trouve peut-être ça distrayant 5 minutes, mais il laisse rapidement tomber.
Parmi toutes les célébrités qu'il fréquente, on peut figurer rien de moins que Rudyard Kipling, par exemple,
Mark Twain,
ou Ignace Paderewski, avec lequel Gregor deviendrait presque familier s'il le souhaitait.
Il ne se laisse jamais griser par leur prestige et garde ses distances, toujours.
Prenant garde à ne pas trop se lier.
Il n'y a qu'un couple qui trouve grâce à ses yeux et dont, pour autant qu'il puisse l'être, il va devenir l'intime.
Norman Axelrod, qui exerce la profession de philanthrope, et son épouse Ethel.
Quand Gregor les rencontre, c'est presque toujours en présence du collaborateur débutant de M. Axelrod, le jeune Angus Napier.
Qui sert à Norman de secrétaire, d'intendant, de chauffeur, et cependant qui lui obéit au doigt et à l'œil, il semblerait également que ses yeux ne quittent pas non plus Ethel, de qui ses doigts sans doute rêvent aussi.
Gregor vient assez vite dîner chez les Axelrod, bientôt régulièrement, une fois par semaine, puis deux, le mardi et le vendredi.
Les mardis sont à usage privé, à trois ou quatre selon la présence ou pas d'Angus Napier.
Mais les vendredis sont plus mondains et profus, regroupant une brochette changeante et choisie d'admirateurs de Gregor.
Ces admirateurs sont donc de style et de profession fort divers.
Des individus de plus en plus bizarres commencent de s'agglutiner autour de sa personne.
Le proclamant leur bien-aimé Vénusien, issu d'une lointaine planète et arrivé sur Terre en vaisseau spatial.
Ou, selon d'autres versions, sur les ailes d'une grande colombe blanche.
Mais de tels faits aussi, dans le milieu scientifique, passent mal.
Les dents grincent du côté des sociétés savantes.
On commence de qualifier aussi Gregor d'imposteur et d'escroc.
N'empêche que son panache conquiert les foules, ahuries par ses mises en scène et tous ses accessoires.
Parmi lesquels, les curieux tubes dont il s'entoure qui sont devenus sa marque.
Mais qu'il négligera toujours de breveter ou commercialiser.
Il a tort, c'est dommage, il devrait. Car c'est encore un mauvais coup à venir.
On ne les redécouvrira que 50 ans plus tard.
Comme étant l'origine des tubes fluorescents modernes, ce qu'on appellera non sans succès...
Le néon.
Westinghouse continue de fermer les yeux sur ses excès, tout à l'enthousiasme de voir son procédé choisi pour illuminer l'exposition universelle de Chicago, qui va se prolonger pendant 5 mois pour célébrer les 400 ans du pied de Christophe Colomb posé sur l'Amérique.
Ayant su convaincre en haut lieu qu'on peut transporter l'électricité sur de longues distances, Westinghouse est aussitôt désigné pour en alimenter d'abord la ville de Buffalo.
Et la première de ces usines hydroélectriques, à 40 km de Buffalo, sera édifiée là où le voulait, rêvait, imaginait ou prévoyait Gregor dans son jeune temps.
À même les chutes du Niagara.
À l'exposition de Chicago, Gregor tient encore la vedette en développant un nouveau numéro.
Ça et là crépit, issu de rouages, un éclair. Sphériques ou ovoïdes, de petits objets en cuivre tournent tout seuls à grande vitesse sur des tables drapées de velours, inversant régulièrement leur sens de rotation.
Gregor fait encore durer le silence après que celui-ci s'est établi, puis, sans un mot, commence de présenter une succession accélérée de prodiges électriques.
Ne comprenant pas plus que moi toutes ces choses scientifiques, le public ouvre déjà fort grand ses yeux, bouche bée devant un tel spectacle.
Mais quand lui-même se métamorphose en un long déluge de feu, toute la salle hurle jusqu'à la fin du phénomène.
Après quoi, dans le silence progressivement rétabli, le corps immobile de Gregor et ses vêtements continuent un moment d'émettre des vibrations et des halos de lumière, faiblissant très lentement jusqu'à l'obscurité totale revenue. Comme un miroir renvoyant au monde sa stupeur.
Toute l'assistance partie, seule demeure est-elle Axelrod.
Assise au premier rang des fauteuils, paraissant absorbée dans ses pensées, simplement vêtue ce jour-là d'une jupe ronde et d'un corsage à manches froncées.
Le tout d'un rose passé, jusqu'au petit col fissier qui emprisonne son cou et comme son habitude.
Sans aucun bracelet, ni collier, ni broche, ni bague, autre que son alliance.
Nourrissant, condensant une passion sans espoir pour Ethel, Angus Napier est parvenu à se rendre indispensable auprès de Norman, s'acquittant au mieux de sa fonction de secrétaire afin de pouvoir rester le moins loin possible de la femme du patron.
Celle-ci, malgré sa douceur et ses idées avancées, ne le tenant que pour une forme à peine améliorée de domestique.
Mais, observant avec clairvoyance l'intérêt discrètement marqué d'Ethel à l'endroit de Grégor, une haine absolue à l'égard de celui-ci s'est installée dans l'âme du jeune nappier.
Cependant, tout en s'essuyant les mains dans une serviette à usage unique qu'il vient d'extraire de sa mallette, Grégor énumère pour lui-même d'autres projets spectaculaires à base d'électricité.
Il s'agit d'éclairer toute la planète en une seule illumination.
Ordinairement, il s'ouvre peu de ses projets, sauf à certains spécialistes internationaux qui le visitent.
Mais quand ceux-ci lui demandent comment il va conduire ses flux à une telle altitude...
« C'est très facile !» dit-il en haussant les épaules et sans s'avancer plus.
C'est toujours le même problème avec lui. On ne sait jamais exactement si tout cela est possible ou ne relève que du rêve à moins que du bluff.
Nous lirons la suite des aventures tumultueuses de Grégor lors de la prochaine émission. À bientôt!
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez